Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre émission Au-delà des apparences sur Radio Présence. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous attendions tous l'arrivée depuis Paris de Rachid Benzine, politologue, islamologue et écrivain. La bibliothèque du quartier de Bagatelle à Toulouse était pleine à craquer avec les habitants, les associations, les services de la ville et de l'éducation nationale. En fait, tous les acteurs au jour le jour de ce quartier prioritaire hyperactif et précurseur sur beaucoup de choses, notamment la culture. Leur thématique à tous ce jour-là, et ils y avaient travaillé depuis un an, habitants inclus, l'art du vivre ensemble en pleine période de repli sur soi. Il faudrait que les habitants du quartier eux-mêmes, souvent stigmatisés, rarement connus sous leurs meilleurs jours, publient un petit recueil de recettes du bien-vivre ensemble, à diffuser à tous, bien au-delà des frontières du quartier de Bagatelle. Donc Rachid Benzine, une denrée intellectuelle rare et difficile à attraper, vient d'arriver dans la magnifique bibliothèque Saint-Exupéry, à Bagatelle.
Je m'en irai, vois-tu, je sais que tu m'attends.
Oui, on t'attend beaucoup, c'est vrai.
Absolument.
Bon, enfin, tu es là.
C'est l'essentiel.
Tu as décidé de venir à Toulouse pour parler du vivre ensemble. Une notion totalement galvaudée.
Elle est à la fois galvaudée, mais elle est très importante aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire comment trouver une cohésion sociale avec des mémoires différentes, avec des récits différents, et avec une société qui se pose plein de questions sur à la fois ce qu'elle est et en même temps ce qu'elle peut devenir. Et à partir de là, lorsqu'il y a des difficultés, il y a parfois, je dirais, des postures idéologiques, politiques, sociales ou autres, qui empêche véritablement de comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre aujourd'hui globalement dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des bruits de fond qu'on entend qui relèvent souvent de la colère, de l'indignation, du ressentiment, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de travailler la société française.
Et qu'on appellerait quoi, qui ressemblerait à quoi si on creuse cette lame de fond ?
Je suis en train de creuser cette lame de fond, je crois que c'est plutôt la question du chagrin. Je pense que beaucoup de Français ressentent du chagrin par rapport à la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, par rapport à une certaine grandeur de la France, par rapport à une certaine représentation de la population qui se voudrait homogène. Et j'ai l'impression qu'on a vécu avec des représentations qui sont devenues obsolètes, et que le vrai travail, c'est de faire ce travail du chagrin, du deuil, pour justement faire en sorte que le chagrin devient proactif. C'est-à-dire que si on prend par exemple la question du chagrin, c'est le temps long. Tout le monde sait ce que c'est que le chagrin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une émotion, un sentiment, mais que moi j'essaie de travailler pour en faire un concept politique et philosophique, pour lire un peu nos impasses. Le chagrin est un événement. La tristesse est un état. Quelqu'un peut dire « je suis triste ». Et la colère, c'est un événement, mais qui relève plutôt de l'immédiateté. C'est quelque chose sur le temps court, le ressentiment aussi. Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, dans lequel il y a aussi le déni, la colère, et qui permettrait, me semble-t-il, que si on va au bout, de rendre, je dirais, le chagrin proactif, pour justement retrouver de nouvelles représentations et libérer l'agir.
Mais ce chagrin, il n'est pas lié aussi à l'âge de nos artères, hein. C'est pas pour ça qu'on y croit un peu moins et qu'on a perdu ou en tout cas atténué nos idéaux? Ou est-ce que c'est toute la société qui est dans le chagrin?
Je pense que la plupart de la société est dans le chagrin, dans la mesure où beaucoup, par exemple, en ce qui concerne la loi de l'immigration, ont ressenti non pas de la tristesse, non pas de la colère, mais d'abord du chagrin. Beaucoup de gens, lorsqu'il y a eu le Covid, ce n'était pas de la tristesse, c'était d'abord du chagrin. Et le chagrin dit d'abord quelque chose, la perte de quelque chose. Et ça, l'ensemble des Français, que l'on soit issu de l'immigration ou pas, ressentent qu'il y a un moment qu'on perd quelque chose. Simplement, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se disent que cette perte-là, en fait, elle ouvre de nouvelles possibilités pour pouvoir agir, de donner de nouvelles représentations, je dirais, de nouveaux espaces d'action. Et comment on sort du chagrin ? Prenons simplement un cas le plus simple, comment on sort d'un chagrin d'amour. Ça met du temps et on en sort quand on retrouve un nouvel amour. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose, une force qui était empêchée, qui était là. D'un seul coup, lorsqu'elle retrouve un nouvel objet d'amour, se met à se déployer. Et je crois que la société française a suffisamment de force pour retrouver un nouveau prestige dans ce contexte de mondialisation. Mais il s'agit de sortir de la nostalgie, il s'agit aussi de sortir d'une certaine conception de la grandeur qui ne fonctionne plus avec ce que nous sommes aujourd'hui.
Et peut-être de sortir des idées hautes et d'être un peu plus les mains dans le cambouis, non ? C'est aussi ça, peut-être, c'est un peu la défaite du concept français.
C'est-à-dire que c'est une certaine conception, c'est-à-dire que globalement, le monde a changé, et on voudrait que la société française ne change pas. Et tous les discours du Rassemblement national, de certains extrémistes de droite ou de gauche, ou même de religieux, c'est de croire qu'ils vont nous faire revenir à une certaine idée de la France, mais qui était d'abord une idée de fantasme qui n'a jamais existé historiquement. Si je regarde la population française, aujourd'hui, la société française est la société où il y a le taux de mariage mixte le plus fort d'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a du mélange. Simplement, je crois qu'on n'arrive pas à faire une espèce de update globalement de ce que nous sommes. Entre ce que nous sommes sociologiquement, historiquement, anthropologiquement, quand on fait des études de ce que c'est la société française, et les représentations, en fait, les représentations ne sont pas en adéquation avec le terrain. Et tant que vous voulez ramener le terrain à des anciennes représentations, ça ne fonctionne pas. En fait, il faut partir de ce qui existe, de toutes les dynamiques, et de se dire que ces dynamiques créent des nouvelles représentations. Et les représentations, on en a besoin pour agir, parce que nous assisons tous à partir des représentations. Je peux avoir une représentation de ce que c'est que la justice, de ce que c'est que l'injustice, de ce que c'est que la colère, de l'humiliation. Mais il suffit que je change de représentation de ce que c'est que la justice pour que mes actions puissent changer. C'est pour ça que la question des représentations, elle est énorme, elle est fondamentale, mais on interroge rarement nos propres représentations parce qu'elles sont implicites.
Implicites à ce qu'on est depuis qu'on est né, en fait, dans notre éducation, etc., etc., c'est ça ?
Oui, elles sont implicites.
Est-ce que, par exemple, si on doit parler de l'immigration, c'est intéressant de parler de l'implicite.
Vous savez, sur la question de l'immigration, c'est un mot qui est surchargé en termes de représentation. Les gens entendent réfugiés, ils entendent migrants, ils entendent subsahariens, ils entendent maghrébins, ils entendent syriens. Rarement, ils entendent ukrainiens, rarement, ils entendent américains, vous voyez. Donc, ce mot, en fait, on ne sait pas trop ce que nous disons là-dessus. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que la société française a toujours été une société du mélange. Historiquement, elle l'a toujours été. Et que la question de la mobilité dans un contexte de mondialisation, c'est ça qu'il s'agit de mettre en avant. Toute la question, c'est est-ce que nous, Français, nous allons être capables d'inscrire un nouvel imaginaire pour que l'ensemble des Français puissent, je dirais, se déployer et être un peu plus heureux dans le contexte de la mondialisation. Mais on ne peut pas vivre dans une forteresse alors que le monde entier est en train de s'ouvrir. On ne peut pas vivre sur la question de la peur. On ne peut pas vivre sur la question de la désignation d'un bouc émissaire. J'ai envie de dire, nous valons beaucoup mieux que ça.
Mais alors, comment faire, alors, justement ? Parce que le bouc émissaire, il existe. La peur, elle existe. Le renfermement, il existe. Comment prouver que les issues sont plus justement dans le partage que dans le, ou voire même dans l'amour, hein, c'est ce qu'on a toujours envie de dire au Front National, vous êtes malheureux pour être Front National, tester l'amour.
Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans la société française, que ce soit les associations ou les gens. Toute la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui fait que toutes ces évolutions positives n'arrivent pas à faire récit ? Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas à émerger ? Tout simplement parce que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes des récits. Et nous sommes les récits auxquels nous adhérons, puisqu'il y a toujours le fait d'adhérer à un récit. En fait, le fait d'adhérer à un récit vous amène toujours à agir. On le voit bien, pour donner un exemple, lorsque les gens tombent amoureux, ils tombent amoureux d'abord d'un récit, et ce récit leur fait faire tout et parfois n'importe quoi. Donc on voit bien, c'est l'action. Et que globalement, aujourd'hui, les seuls récits que nous entendons, mais de manière parfois très vulgaire, c'est le récit de l'insécurité, le récit du ressentiment, le récit de la colère. Tous les autres récits, à mon avis, qui sont très intéressants et qui peuvent ouvrir une voie à l'ensemble des Français, les récits féministes, les récits écologistes, les récits sociaux par rapport, je dirais, au bien public, même les récits, je dirais, en ce qui concerne le mouvement décolonial sur la question de la mémoire, comment intégrer des parts de notre mémoire qui ont été mises de côté, marginalisées pour agrandir et épaissir le récit que se raconte la société française, c'est ce travail-là. Alors aujourd'hui, peut-être que le concept, peut-être que l'analyse ne le permet pas, parce que l'analyse n'arrive pas à toucher globalement les tréfonds de l'être humain. Ben, puisqu'on n'y arrive pas au niveau du concept, il faut peut-être aussi passer par la fiction, par le récit, par l'émotion, par l'intuition, par l'art, qui sont autant de manières et de médiation, quelque part, pour bouleverser l'imaginaire. Parce qu'une société, c'est d'abord un imaginaire et des représentations d'elle-même. Si la France gagne la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, si je prends par exemple la métaphore du football, on voit bien que la réaction et la manière dont les Français se voient ne va pas être la même s'ils sont éliminés en 16e de finale. Vous voyez, c'est des choses qui sont aussi importantes, et que c'est le football, le sport, ce sont d'abord des mythes, hein, des mythes qui sont très importants, et qu'une société ne peut pas vivre sans mythes. Et quand vous avez un mythe qui dérive, celui de la blanchité, celui de la souveraineté, celui du rassemblement national, lorsque vous avez un mythe qui est en train de dériver, ça ne sert à rien, me semble-t-il, de s'arrêter simplement à la déconstruction de ce mythe, ça ne fonctionne pas. Et on le voit bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui vote au Rassemblement national, vous avez beau apporter toutes les statistiques, toutes les démonstrations, ça ne marche pas. Donc ce n'est pas vers là qu'il faut aller, il faut faire ce travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut absolument le faire, mais c'est insuffisant. Tout l'autre travail, c'est de se dire quel récit mythique ou quel mythe de la société française nous pouvons retravailler pour emmener les gens et embarquer les gens avec nous dans ce mythe d'émancipation, dans ce mythe, je dirais, de l'autonomie, dans ce mythe de la solidarité, dans ce mythe de la fraternité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement penser simplement les choses à partir de liberté, égalité, sans penser d'abord ce qui fait le socle de la société, qui fait que vous êtes mon semblable, c'est le principe de la fraternité. Mais c'est quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment dans la société française, et pour reboucler avec le début, c'est ça, c'est à partir de cette notion de la fraternité que se permet, qu'on peut avoir cette idée du vivre ensemble, hein. C'est-à-dire que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est les riches qui ne veulent pas vivre avec les autres. Et c'est aussi cela, et on dit les ghettos, les pauvres, mais quand vous allez dans les quartiers populaires, la plupart des gens, ils veulent avoir de la sécurité, ils veulent avoir une bonne école, ils veulent avoir des bons soins au niveau des hôpitaux. Ils aspirent, comme l'ensemble des Français, à être bien. Mais l'entre-soi n'est pas quelque chose qui est choisi. L'entre-soi, souvent dans les quartiers populaires, est quelque chose qui est subi. Alors que l'entre-soi des riches, lui, il est choisi.
Alors c'est très intéressant, ce sera la dernière question, puisque ici, au cœur de la bibliothèque Saint-Exupéry de Bagatelle, le combat depuis 7 ans, il est là, le vivre ensemble pour une population cloisonnée, cantonnée au quartier, et dont la parole ne sort jamais des murs, ni les talents théâtreux, les talents populaires, les talents de danse. Il faut voir danser les gamines ici, dans ces quartiers, c'est exceptionnel. Et tout ça, ça ne franchit jamais la barrière d'une ville comme Toulouse. C'est quand même assez hallucinant. Et dans l'autre sens non plus, d'ailleurs. Les gens ne viennent pas non plus.
Bien sûr, et c'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bien public comme la médiathèque ici de Saint-Exupéry, elle doit pouvoir permettre cette idée de l'ouverture. Mais c'est déjà bien qu'elle soit d'abord le lieu de la rencontre, de se dire que c'est possible, de se dire qu'on peut se dire, qu'on peut se raconter, qu'on peut montrer un peu les talents et les capacités des uns et des autres, et que le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que ça vous oblige à faire un pas de côté, ça vous oblige à faire une pensée de l'écart, ça vous oblige à sortir de vos propres représentations pour essayer de saisir d'autres représentations. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais quand vous êtes dans un entre-soi, en général, vous avez les mêmes mêmes représentations, les mêmes goûts, les mêmes dégoûts d'ailleurs. Et c'est ça qui fonctionne. Mais c'est quelque chose qui n'est pas le lieu de la créativité, parce que le lieu de la créativité, c'est le lieu de la bizarrerie. Il y a quelque chose qui est bizarre, il y a des gens qui sont ensemble, ils ne devraient pas être ensemble. Et c'est ça ce qui crée globalement le vivre ensemble, mais c'est surtout l'idée du faire ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de vivre ensemble sans cette capacité d'abord de se déplacer, de partager des récits, de partager des mémoires les uns et les autres, de créer un récit commun en mettant en commun nos récits. Et c'est cette idée du faire, de se dire que c'est encore possible. C'est-à-dire que pour moi, ces espaces-là, ce sont des micro-sociétés où on ne renonce absolument pas encore au lien.
C'est exactement ça. D'ailleurs, je précise juste ma question de tout à l'heure. La bibliothèque fait ce travail-là depuis 7 ans avec tous ses partenaires, les associations et tous ceux qui travaillent au corps. C'est le quartier qui reste fermé et Toulouse qui reste fermé au quartier. Mais ici, ce microcosme, c'est parfaitement réussi. La preuve, c'est la 7e année et vous êtes le dernier invité de 2024.
En tout cas, je suis très heureux. J'espère qu'il y aura d'autres invités. Puis j'espère qu'on pourra permettre, notamment aux jeunes qui sont ici, de pouvoir montrer leurs talents dans d'autres espaces, et qu'ils soient invités dans toute la ville de Toulouse et aussi ailleurs, parce qu'on a besoin de passer des frontières. Hein. C'est rester toujours dans le même espace, c'est quelque chose qui relève de la frustration. Le tout, c'est comment on va retravailler les frontières et les espaces. Les gens des quartiers populaires sont plutôt prêts, à mon avis, là où il faut travailler, c'est dans le centre-ville ou ailleurs, travailler leur propre représentation eux-mêmes de ce qu'est la culture. Et donc, ici, on a plutôt l'idée, on a déjà l'idée du mélange. C'est ailleurs que cette idée devrait être travaillée davantage.
Et on a vraiment besoin des énergies des uns des autres, hein ? On est bien d'accord.
Nous avons besoin vraiment de tout le monde, de toutes les bonnes volontés. Mais à chaque fois que je me déplace dans des quartiers populaires, je suis toujours surpris qu'en fait, cette société, elle tient par la bonne volonté de ces gens qui s'impliquent dans le domaine associatif. Et ça, c'est important de pouvoir le rappeler. Ce sont tous ces petits liens au quotidien, toutes ces solidarités, toute cette fraternité, toute cette entraide, l'ensemble. Et ça, c'est important, de pouvoir le montrer. Mais en France, malheureusement, on sait mesurer l'échec, on ne sait pas mesurer la réussite.